RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien de ce Wimbledon 2026, Day 10. Un Day 10 absolument grandiose pour nos voisins britanniques, puisque il y aura Arthur Ferry en demi-finale de Wimbledon. Ça paraît insensé, pourtant c'est la vérité. J'imagine un peu les titres dans les journaux anglais, même s'ils l'ont déjà fait. The Fairy Tale, oui, le conte de fées, c'est un peu près ça. Mais en tout cas, on s'attendait à une journée avec des matchs accrochés. Eh bien, ça n'a pas du tout été le cas. C'est la leçon de cette journée très très chaude, puisque les quatre quarts de finale ont tourné court, tant chez les filles que chez les garçons. Alors évidemment, on va commencer par la sensationnelle victoire d'Arthur Ferry, le franco-britannique, hein, qui s'est débarrassé en 3-7 assez sec de Fabio Coboli, 6-4, 7-6, 6-0. Il l'avait déjà battu à l'Open d'Australie en 3 manches. Eh bien, il a réédité cette performance, mais surtout, on a été impressionné par son niveau de jeu, parce que franchement, il respire le tennis sur gazon. C'est vraiment une performance admirable de la part du franco-britannique, qui a été performant dans tous les domaines et qui a fini par humilier le finaliste de Roland-Garros avec une bulle au troisième set. Ça paraît incroyable, mais voilà, il a été porté par le public, et j'ai l'impression qu'il a évolué dans une sorte de zone qu'on trouve rarement quand même dans une saison. Il y a une ou deux journées comme ça où rien ne peut vous arriver. Tout ce que vous tentez, c'est la réussite totale. Et puis, vous avez la chance. Et voilà, et ça donne un match totalement à sens unique, qui a totalement régalé les 15 000 spectateurs du Center Court. Et j'ai pu discuter avec quelques personnes qui étaient dans le stade une heure après, hein, parce qu'ici on reste au stade, parce que l'endroit est sympa, il est fleuri, il y a des petits bancs où on peut prendre son thé ou alors manger des petits gâteaux secs. Et je suis tombé sur des dames absolument exquises, elles ont été franches avec moi, elles n'avaient jamais entendu parler d'Arthur Ferry. Elles avaient lu un peu dans la presse qu'il était né en France, comme ça, mais elles étaient sous le charme du garçon. Et ce qui est génial, c'est que voilà, elles se sont appropriées, quoi. Elles l'ont totalement adopté, même s'il est né, on le rappelle, à Sèvres, hein, dans les Hauts-de-Seine. Mais voilà, il a une histoire bien à lui. Arthur Ferry, il est en train de construire sa légende. Et qui peut l'arrêter désormais? Parce que s'il réédite ce niveau de jeu, il va être très dur à aller chercher dans la partie basse du tableau, même si c'est un sacré joueur qui va se dresser devant lui, à savoir Sacha Zverev. Mais je me mettais un peu à la place de Zverev, qui donc jouait en simultané sur le court numéro 1. Parce que vous savez qu'il y a, au chaque changement de côté, ils font défiler les scores, hein, sur les courts. Et Zverev, à un moment, parce que lui aussi, la victoire a été assez simple contre Fritz, on va y revenir. Zverev, à un moment, il a dû voir passer le score du center court. Il a dû voir 6-4, 7-6, 3-0, 6-4, 7-6, 5-0. Il a dû dire, mais qu'est-ce qui se passe sur ce court? Qu'est-ce qui se passe sur le court? En tout cas, grande performance d'Arthur Ferry. On sait, hein, c'est un petit gabarit. On rappelle qu'il a reçu une wildcard pour jouer ce tournoi, puisque son classement, lorsque le cut était tombé, était assez loin. Et maintenant, bah, c'est tout simplement la deuxième wildcard à atteindre les demi-finales ici à Wimbledon. Et la première, c'est juste Goran Ivanišević, tout simplement, qui avait été sacré en 2001. À l'époque, le Croate était 125e mondial. Il lui avait filé une invite parce que voilà, c'est un garçon qui a écrit l'histoire du tournoi, même s'il restait sur 3 ou 4 finales perdues, 3 peut-être. Et il avait gagné le tournoi donc en 2001 avec une finale décalée au lundi. Donc la billetterie avait été chamboulée. C'est-à-dire que c'était un stade de foot ce jour-là. Il y avait beaucoup d'Australiens, beaucoup de Croates. Et ça avait donné une ambiance qu'on ne retrouvera jamais, puisque les organisateurs avaient dû remettre en vente des billets. Et à ce moment-là, comme Wimbledon ne fait rien comme les autres, et c'est tant mieux, les billets avaient été mis en vente au premier venu, quoi. Donc j'imagine qu'il y a des Croates et des Australiens qui avaient planté la tente dans le parc voisin pour arracher les tickets et venir assister à une finale de légende, puisque Goran Ivanišević s'était imposé en 5 manches. Donc oui, 2001-2026, et pourquoi pas. Je vous l'ai dit, petit gabarit, Eh bien, je suis tombé un peu par hasard sur Sébastien Grosjean, qui est consultant ici pour Bein Sport. Et Sébastien Grosjean, lui aussi, a adoré le gazon. Il a atteint quelques derniers, deux derniers carrés ici. Et je lui ai tendu mon micro et écouté son analyse, comme toujours, est très pertinente.
C'est exceptionnel le match qu'il a réalisé face à Flavio Cobolli. Il sortait de deux victoires au Super Tire Break du 5e face à Berckx et Dimitrov. Et puis il a maîtrisé l'événement, la gestion des émotions. Et puis sur le plan du jeu, ça a été un vrai régal. Il a réalisé tous les coups du tennis. Il se déplace à merveille sur le court. Lorsqu'il faut passer sous la balle pour se donner un peu plus de temps, il le fait. Dès qu'il peut, il s'engage. Il a bien servi dans l'ensemble. Il est breaké au début du second, mais il a débraqué par la suite. Et puis lorsqu'il fallait serrer le jeu, comme si un joueur avait beaucoup d'expérience, il serre le jeu, il fait un très bon tie-break, il donne rien. Dès qu'il sauve son engagement et qu'il break en fait dans le troisième, il déroule. Flavio a un petit peu accusé le coup et lâché sur peut-être les deux derniers, mais derniers jeux. Mais quelle performance. C'est toujours bluffant parce qu'il a fait 3 ans à Stanford. Voilà, c'est un super joueur, la tête bien faite. Il a quand même une invitation ici, hein, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Il a très bien joué sur gazon pendant toute cette saison avec une demi en Challenger, un quart au Queens. Donc il arrive en confiance, mais petit à petit, il prend confiance dans son jeu. Il y a très peu de déchets dans ce match. Et puis, c'est sa seule victoire en 3-7 du tournoi face à Cobolli qui sort d'une finale à Roland et qui a déjà fait quart. Donc voilà, il a vraiment dominé cette partie. Mais on parle beaucoup de lui, mais je trouve qu'il gère très bien.
C'est un grand joueur qui connaît très bien le papa d'Arthur Ferry, puisque bon, il me l'a dit, je répète, il est même allé voir le match de l'équipe de France chez Loïc Ferry, donc à 5 minutes d'ici. Et on rappelle que la maman d'Arthur Ferry a été longtemps première série, donc il y a des gènes. Hein, et on se demandait... C'est une question malheureusement qu'on n'a pas pu poser à Arthur parce que, alors ça c'est la mauvaise nouvelle de la journée, et j'ai l'impression que les Anglais, ça les gêne un peu qu'on pose des questions en français, donc l'agent d'Arthur Ferry a fait passer le message aux personnes qui s'occupent des interviews qu'il n'y aurait pas de questions en français, encore moins de one-to-one. Je peux même vous dire que le Bein Sport n'a pas pu avoir Arthur Ferry à son micro, il a juste fait la radio de la BBC. D'ailleurs, sur Instagram, je suis tombé sur une scène assez rigolote où John McEnroe, ils ont enregistré un petit plateau radio sur la terrasse du bâtiment des médias, et John McEnroe a tendu la main vers Arthur Ferry. Arthur Ferry, John McEnroe, good night. Bon, évidemment qu'il le connaissait, Arthur Ferry, mais c'est typique John McEnroe, quoi. Arthur Ferry qualifié pour une demi-finale de Grand Chelem, c'est juste ébouriffant. Je me suis penché sur le futur classement du franco-britannique. Et bien, il va passer de 114 à 36 minima, parce qu'évidemment, rien ne dit qu'il va s'arrêter en si bon chemin. Les coulisses, c'est intéressant parce qu'ils appellent ça le theater, le théâtre, puisque le bâtiment média a été refait. Maintenant, il y a une énorme salle d'interview qui fait effectivement penser à un théâtre à l'italienne, un peu avec des... sur le côté droit, des petits sièges où s'installent les agents du joueur. The Theater était plein à craquer, donc je vous l'ai dit, pas de questions en français. Mais il y a eu une question d'une consoeur qui a fait allusion à sa culture française. Elle lui a demandé, mais alors, explique-moi, tu te sens français, tu te sens anglais, parce qu'on sait que ça parle français dans la famille. Et voici la réponse d'Arthur Ferry. En anglais, je vous traduis derrière.
Now I've lived here a long time, maybe 10 years ago you would have asked me that question and I probably would have said I felt maybe more French than English, but now it's not the case at all. I feel very British, you know. I live here, all my best friends live here, I went to school here, I train here. Obviously my parents are still French, so we speak French with my family and my cousins who still live in France, but no my roots are very much tied to London now.
Alors, ce qu'il dit exactement, ça fait maintenant longtemps que je vis ici. Et si on m'avait posé cette question il y a 10 ans, j'aurais sans doute répondu que je me sentais peut-être plus français qu'anglais. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Oui, je me sens très britannique, je vis ici. Tous mes meilleurs amis vivent ici. J'ai fait mes études ici, je m'entraîne ici. Évidemment, mes parents sont toujours français, donc on parle français avec ma famille et mes cousins qui vivent encore en France. Mais non, mes racines sont désormais profondément ancrées à Londres. Voilà qui va plaire aux journalistes anglais, parce que J'ai senti un intérêt soudain pour le parcours d'Arthur Ferry. Avant, bon, ils allaient voir ses matchs, mais je pense qu'au fond d'eux, ils avaient du mal à l'accepter parce qu'effectivement, il est né en France, ses parents sont français et on sait qu'il joue pour la Grande-Bretagne parce que son papa, Loïc Ferry, a implanté ses affaires à Londres, ses bureaux à Londres. Donc ça s'est fait comme ça. Maintenant, là, ça y est, ils l'ont adopté et ils vont plus le lâcher et le public aussi va plus le lâcher. Et donc ça va être un match assez fantastique à jouer vendredi contre Sacha Zverev, le champion en titre de Roland-Garros. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est la grande question, parce que je ne pense pas que Zverev va prendre ce match à la légère, parce que Koboli l'a admis en conférence de presse, parce qu'il tombait de haut. Hein. Koboli, il ne s'attendait pas à prendre une telle rouste. Il a dit « j'ai peut-être été un peu arrogant au début ». En fait, il s'est présenté avec l'étiquette de finaliste de Roland, l'étiquette de top 10. Et bah, ça lui a coûté cher, parce que je pense qu'il avait... Il avait mal préparé cette rencontre, il s'attendait peut-être pas à ce que Arthur Ferry ait aussi peu de déchets dans son jeu, comme le remarquait avec justesse Sébastien Grosjean. Mais là, Koboli, il a peut-être fait une erreur, il s'est vu un peu trop beau, et ben, il a pris le boomerang hein, dans la figure. Je pense pas que Zverev soit dans cet état d'esprit-là. En plus, il l'a dit en conférence de presse, il avait vu le Koboli Ferry de Melbourne. Donc il sait vraiment à quoi s'attendre. Même si je pense que le gazon est vraiment la surface numéro 1 d'Arthur Ferry. Alors Zverev est en demi, pourquoi? Parce que malheureusement pour lui, Taylor Fritz a ressenti une vive douleur au genou au bout de 3 jeux. Au bout de 3 jeux, et c'est vraiment terrible pour lui parce qu'il pensait en être débarrassé. Il avait joué franc jeu avec les journalistes tout au long de l'année. Notamment à Indian Wells et Miami, en disant que voilà, il avait une tendinite chronique depuis un bout de temps et qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Il avait fait le choix judicieux de ne pas jouer les tournois sur terre battue, enfin les plus gros, hein, parce qu'il avait repris à Genève, il a joué Roland, et il pensait qu'il était tranquille. Et là, il l'a dit, la douleur est revenue, il a un peu paniqué parce que. Franchement, il ne s'y attendait pas. Il pensait que le problème était réglé. Et donc, il n'a pas pu du tout rivaliser avec Zverev, qui s'est imposé très facilement 6-4, 6-4, 6-2. Donc, première demi-finale à Wimbledon pour Zverev. Comme par hasard, ça survient après son titre à Roland. Comme quoi, ce qui s'est passé pour d'Auteuil, ça l'a totalement libéré. Est-ce qu'il va pouvoir disputer une deuxième finale de Chelem consécutive? Bah, ce sera la grande question de vendredi, ce sera la deuxième demi-finale, à n'en pas douter, même si le programme officiel n'est pas encore tombé, mais en général ça se passe comme ça. Le match numéro 1, ce sera le blockbuster entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. À ce propos, j'avais dit une petite bêtise hier sur le podcast concernant les matchs marathon de Novak Djokovic. J'avais évoqué un match contre Rafa Nadal à Roland-Garros dans les matchs les plus longs qu'il a remporté. Non, c'était un match ici à Wimbledon. Je vous avais évoqué, j'avais dit que c'était le match qui avait précédé la demi-finale de Tsonga à Roland. Non, pas du tout. J'avais tout confondu. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la liste des 6 matchs les plus longs remportés par Novak Djokovic, c'est sur le site web d'RMC. Là, cette fois-ci, j'ai vérifié et vous allez voir, il n'y a pas d'erreur. Et donc, la stat qui tue, c'est que il n'a jamais perdu un match de plus de 4h54. Donc si jamais, ça je vous en avais parlé, hein, si jamais le Sinner Djokovic est interminable, les stats sont en faveur du Serbe. Mais bon, on ne sait plus trop quoi penser. Ce tournoi est tellement fou qu'on va aller doucement sur les pronos. On a donc une demi-finale totalement imprévisible entre Arthur Ferry et Sacha Zverev. Zverev qui est vraiment impressionnant au service, ça tombe de très haut. Donc il va falloir qu'Arthur soit très bon en retour de service, mais il a une lecture du jeu qui est assez impressionnante. Il a une intelligence tactique qui est vraiment bluffante. Maintenant, il va falloir qu'il ferme tout son téléphone portable, parce qu'il ne regarde pas la télé, parce que je pense que là, il y aura du Ferry partout sur toutes les télés anglaises, parce que mine de rien, bah, c'est évidemment un événement. Hein, c'est un événement, un Anglais en demi-finale, c'est rare. Il est quand même le cinquième joueur de l'ère Open à atteindre le dernier carré, après Andy Murray, qui a joué 7 demi-finales ici, ah oui, c'est énorme, Tim Henman, Roger Taylor et aussi Cameron Norrie, qui avait fait une demi. Donc ça y est, il entre dans l'histoire de la Grande-Bretagne, et on va suivre de près donc sa demi-finale face à Sacha Zverev. Dans le tableau féminin, Bah, je vous l'ai dit en intro aussi, hein, on a eu deux matchs assez rapides, pas assez insipides, faut bien le reconnaître. Et pour une fois, j'avais vu juste, puisque dans les paris RMC, j'avais misé plutôt sur Kostiuk et Noskova, bingo. Bon, ça rapportait pas beaucoup d'argent, mais c'est bien d'avoir des pronos qui sont bons pour une fois. Kostiuk, 6-3-6-2 contre Paulini. Oui, bon, Paulini, il lui manquait peut-être une ou deux victoires de référence pour retrouver la confiance qui faisait d'elle une joueuse ultra dangereuse. Mais là, bon, elle a un peu chuté et elle n'a pas vraiment vu le jour contre Marta Kostiuk, qui donc va disputer sa deuxième demi-finale de Schlem consécutive. Elle n'est pas encore dans le top 10, c'est pas encore mathématique, je crois, mais ça ne saurait tarder parce que là, ses résultats sont juste bluffants, extraordinaires. Depuis son titre à Madrid, elle est vraiment au top. Et je pense qu'elle peut aussi préparer le Masters de fin d'année qui aura lieu cette année à Indian Wells, puisque l'Arabie Saoudite s'est désengagée, donc la WTA a récupéré un site sympathique. Mais bon, en hiver, Indian Wells, qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fait bon? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'ils vont jouer le soir? Ou ça va faire... Il va faire de la glace, je ne sais pas. En tout cas, Kostiuk qualifié. Et donc, son adversaire sera Linda Noskova, qui confirme son aisance sur air. Victoire 6-3, 7-5 contre Elise Mertens. Beau parcours de la Belge, hein, qui a surfé sur sa victoire face à Rybakina. Son exploit face à Rybakina, puisque derrière, elle avait battu Bouskova. Mais là, elle est tombée sur une fille qui est en chauffe totale, hein, puisque Noskova... ultra puissante, elle a gagné Berlin il y a peu en battant quand même Eala en demi et surtout Jessica Pegula en finale. Est-ce qu'elle va pouvoir perpétuer la tradition tchèque? Est-ce qu'on va avoir une finale 100% tchèque? Ce serait évidemment énorme et pas si étonnant que ça parce que le gazon est une surface où les Tchèques sont juste exceptionnels. Hein. Kvitova, Vondrousova, Krejčíková, ouais, voici des filles qui ont toutes soulevé le trophée ici à Londres. Donc on va voir comment ça va se dérouler demain, les deux demi, Mouchova-Goff et Kostiuk contre Noskova. J'avoue que là, j'ai du mal à me prononcer. Ça fait plusieurs fois que je mets Goff perdante, et elle tient debout, Coco. L'impression qu'elle a compris quand même quelques subtilités de l'herbe. Si son service est au rendez-vous, elle va poser de gros problèmes à Mourova. Mourova sait faire plus de choses, probablement, mais en termes de fighting spirit, Coco Gauff n'a pas beaucoup d'égal. Kostiuk-Noskova, c'est beaucoup plus indécis, ouais, je ne sais pas, parce que Noskova, elle est ultra puissante, elle est capable de te mettre quand même à 3 mètres de la balle sur un coup de raquette. Mais Kostiuk a beaucoup d'arguments aussi. Même si je pense que c'est sur terre qu'elle est la meilleure. Voilà, donc c'est un peu la bouteille à encre. Mais j'avoue que je ne serais pas contre une finale 100% tchèque. Pour saluer aussi la qualité de cette école. Je ne sais pas comment ils font, nos amis tchèques, parce que nous, en France, on souffre terriblement. Évidemment, comme tout journaliste comme spécialisé, je regarde les classements, les simulations. Lundi, il n'y aura que deux Français dans le top 100. Diane Paris et Varvara Gracheva. Qui est blessé, donc il va bientôt disparaître du top 100, c'est mécanique. Elsa Jacquemot ne sera plus dans le top 100. Et puis il y a une autre information un petit peu alarmante, c'est que depuis quelques années, je crois que ce sera la deuxième ou troisième année, Wimbledon organise un tournoi pour les 14 ans. Superbe initiative, ça permet aux jeunes de jouer sur herbe, de prendre leurs repères. J'ai vu le tableau féminin, il n'y a pas une Française. Il n'y a pas une Française, puisque c'est une sélection qui est basée sur le classement, on va dire, européen. Même s'il y a, il y a aussi des filles d'Amérique du Sud, je crois. Et oui, c'est une tournée sur invitation, donc ça récompense les joueuses les plus régulières qui ont accumulé le plus de points sur les différents tournois en Europe et dans le monde entier. Donc on a de gros soucis en France avec les 12 ans, les 14 ans. Donc la relève n'est pas prête de venir, malheureusement, même si maintenant on a un gros espoir avec la fille de Tatiana Maria, donc Charlotte, mais bon, elle a que 12 ans, donc on va devoir attendre un petit peu. Voilà, c'était la petite fausse note de la journée. L'autre fausse note de la journée, c'est que malheureusement, Sadio Doumbia et Fabien Reboul ont échoué en quart de finale du double messieurs contre la paire allemande Kravitz-Putz, défaite en 2-7-5-7-6. Il y avait la place peut-être pour prendre le deuxième, mais ils sont solides les Allemands. Ils sont solides et donc c'est eux qui vont poursuivre leur route. Sadio et Fabien vont rentrer à la maison. Je ne sais pas où ils vont jouer ensuite. Est-ce qu'ils vont rester sur Terre ou est-ce qu'ils vont attendre la tournée aux États-Unis? Je ne sais pas. On n'a pas eu le temps de leur demander puisque je ne pouvais pas aller les faire en interview. Mais en tout cas, c'est encore un petit coup d'arrêt pour nos Toulousains qui avaient déjà échoué à Melbourne alors qu'ils jouaient très très bien. Mais là, ils sont tombés sur une paire qui est redoutable sur herbe. C'est peut-être eux qui vont d'ailleurs empocher le morceau, même si encore la fameuse équipe Helio Vara Paten. Et donc Kravets-Putz, ils vont jouer qui? Je n'ai pas regardé le tableau, mais en tout cas ils sont en demi, ça y a aucun doute. Voilà, voilà, je vous dis ciao, et puis bonne demi-finale dame jeudi, et puis on se retrouve vendredi pour le débrief des demi-finales hommes avec la présence des trois meilleurs joueurs actuels du circuit, Djokovic, Sinner et Zverev. Et puis une invitée surprise. Ah oui, je vous ai pas dit. Arthur Ferry, il fête son anniversaire dimanche. Vous imaginez? S'il dispute la finale de Wimbledon le jour de son anniversaire, mais là c'est plus qu'un conte de fées. C'est au-delà du conte de fées. C'est juste extraordinaire. Et c'est un truc que personne n'aurait pu prédire il y a 12-13 jours. Allez, ciao ciao.